If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Chaque semaine, nous vous ouvrons les coulisses de cette course à l'Élysée. Un podcast à écouter en famille, en partant au travail, sous la couette ou en se musclant les obliques externes, c'est comme vous voulez. Après tout, c'est votre podcast, donc à vous de voir. C'est d'ailleurs tellement votre podcast que vous pouvez nous laisser vos messages écrits sur libellisé@libération.fr. N'hésitez pas, hein. Que diriez-vous d'un épisode 7? Eh bien c'est parti. L'agression russe sur l'Ukraine ne semble plus en finir. Sur place, le nombre de civils tués augmente, les immeubles sont percés par les bombes, les routes de l'exil se remplissent. Chez nous, la guerre aux portes de l'Europe a une conséquence directe, la hausse des prix. On l'a vu pour l'essence, l'augmentation pourrait bientôt toucher certains produits alimentaires. Depuis le début de cette campagne présidentielle, le trou dans le portefeuille est l'une, voire la préoccupation majeure des Français. Le gouvernement tente chèques et mesures pour contrer l'inflation, alors que d'autres appellent au blocage des prix ou à la baisse des taxes. Une thématique toujours sensible, alors que le sujet économique déborde désormais sur le politique et l'international. Libellisé, épisode 7, pouvoir d'achat, les candidats pourront-ils rendre la monnaie ? Alors, on va en parler avec Anne-Sophie Le Chevalier. Salut.
Bonjour.
Alors, tu es journaliste au service Écho de Libération et Lilian Alemania. Salut.
Salut.
Toi, tu es chef du service politique de Libération. Alors, juste au départ, Lilian, quand on dit que le pouvoir d'achat, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui de ce podcast, on dit que c'est le seul thème qui a un peu émergé de cette campagne. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation?
Oui, parce que ça a surpris un peu beaucoup de médias qui avaient commencé la pré-campagne, on va dire, avec les thématiques de l'immigration, de la sécurité, qui étaient plutôt porté par l'extrême droite et la droite. Et on s'est vite rendu compte dans les enquêtes d'opinion que ce qui intéressait les Français et les attentes étaient beaucoup sur le pouvoir d'achat. Dans une période post-Covid, en tout cas en sortie de pandémie, et même avant la guerre en Ukraine, qui a renforcé ces questions-là avec la flambée des prix des matières premières et donc le prix à la pompe.
Anne-Sophie, toi aussi, en tant que journaliste éco, tu as vu que tout de suite, c'était ce sujet-là qui pouvait aujourd'hui faire débat depuis le début de la campagne, que c'était celui dont s'étaient emparés les candidats rapidement.
Bah oui, c'est surtout parce que ça correspond effectivement aux préoccupations des Français, parce que l'inflation a commencé à progresser doucement l'année dernière et cette progression s'est accélérée ces dernières semaines. Et ça touche directement les Français, donc les candidats s'en emparent pour leur parler. Il faut se rendre compte quand même, ce matin, l'OFCE dit que 60% des ménages français sont touchés par le surplus d'inflation qui frappe les prix.
Donc ça veut dire que ça pourrait avoir même des conséquences pour la suite, même après, au-delà de l'élection présidentielle.
Ah bah largement au-delà, puisque d'autant que on voit bien que les prix de l'énergie ne se stabilisent pas, et qu'il y a une grande volatilité et des niveaux records jamais atteints, ou en tout cas atteints il y a 10 ans, et on s'en rapproche. Donc évidemment que ça va se prolonger au-delà. Et donc la campagne reflète aussi les préoccupations des gens et ce qui les touche au moment où la campagne se déroule.
Lilian, on dit souvent que longtemps, finalement le pouvoir d'achat était un marqueur de gauche. Et pourtant, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est davantage un sujet de droite. Comment ça se fait ?
Parce que les candidats de droite, enfin les précédents présidents de la République de droite, ont fait leur campagne là-dessus. Jacques Chirac avec la fracture sociale en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007 avec le travailler plus pour gagner plus. Donc la gauche s'est plutôt fait piquer ce marqueur-là. Et surtout la droite l'a porté en termes individuels et non plus collectifs, non plus sur une augmentation du SMIC, donc du salaire minimum, des négociations collectives par branche, une diminution du temps de travail, comme ça avait été le cas sous Lionel Jospin. La droite, c'était vraiment de manière individuelle, donc une baisse souvent des cotisations sociales pour pouvoir, sur la feuille de paye, bah, voir que en net, le salaire a augmenté, mais les prestations sociales derrière ont baissé. C'est sur cette différence-là que se fait la question du pouvoir d'achat aujourd'hui.
Oui. On dit souvent que pour les majorités en place, et avec un président qui se représente, c'est casse-gueule comme sujet, c'est le cas ?
C'est casse-gueule, ça l'a été pendant le quinquennat. Le quinquennat Macron a été marqué par les questions de pouvoir d'achat avec la crise des Gilets jaunes. C'est vraiment un des tournants du quinquennat, et c'est cette crise-là qui l'oblige à bouger sur les questions de pouvoir d'achat, parce qu'il y avait, et là aussi, il avait utilisé des leviers plutôt qu'on utilise plutôt à droite, sur la baisse des cotisations sociales, la défiscalisation, des socialisations, c'est un peu technique, et la défiscalisation des heures supplémentaires, qui étaient aussi des produits politiques, on va dire, utilisés par Nicolas Sarkozy en son temps.
C'est ça qui est étonnant. Alors, sous Emmanuel Macron, beaucoup de Français disent « Ah bah, c'est incroyable parce que notre pouvoir d'achat a baissé ». Et pourtant, quand on regarde les études, tout le monde nous dit « Ah bah non, vous avez gagné en pouvoir d'achat ». Comment analyser cette différence ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le pouvoir d'achat et la baisse de pouvoir d'achat, elle n'est pas ressentie de la même manière par tout le monde. Ça dépend évidemment de ce qu'on achète et la structure du panier de consommation. Par exemple, l'année dernière, les premiers à avoir s'être rendu compte que les prix augmentaient, c'était les habitants des zones rurales, qui prennent beaucoup plus leur voiture que les urbains et qui ont vu, eux, les conséquences sur leurs dépenses de l'augmentation du prix de l'essence. Ensuite, les moyennes, ça cache toujours de fortes disparités. Et par exemple, sur la hausse du pouvoir d'achat, c'est vrai qu'il a augmenté pendant le quinquennat du fait des différentes mesures de redistribution. Néanmoins, l'Institut des politiques publiques pointait en novembre dernier que pour les plus pauvres, et pour les 5% les plus pauvres, et il n'y avait pas eu de gain de pouvoir d'achat pendant le quinquennat. Alors que pour les 5% les plus riches, ces gains avaient été exceptionnellement élevés, parce que, si vous vous souvenez, au début du quinquennat, Emmanuel Macron a fait une réforme du capital, et notamment avec la suppression de l'ISF et avec l'instauration de la flat tax, qui était un taux d'imposition unique de 30% sur les valeurs immobilières, et qui concernait du coup les Français les plus aisés. Donc on voit bien, selon l'endroit où on se trouve sur l'échelle des revenus, les gains n'ont pas du tout été les mêmes.
Alors le pouvoir d'achat, tu l'as dit Lilian, ça a marqué véritablement le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va revenir dans un instant sur les gilets jaunes, mais tu as cité Nicolas Sarkozy en exemple d'Emmanuel Macron pour certaines réformes économiques. Éric Zemmour comme Valérie Pécresse ont repris à leur compte le « travailler plus pour gagner plus ». Emmanuel Macron, dans sa lettre de candidature aux Français, dit seulement « il faudra travailler plus ». Il ne parle pas de gagner plus, c'est un oubli ?
Oui et non, parce que le travailler plus pour Emmanuel Macron, c'est le travailler plus longtemps. C'est travailler plus, c'est-à-dire baisser le chômage, donc il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de gens qui participent à la croissance du pays. Mais c'est aussi travailler plus longtemps. Il a été coincé pendant son quinquennat par sa réforme des retraites universelles et son engagement à l'époque, justement pour ne pas perdre les électeurs sociodémocrates, à ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite, qui est de 62 ans aujourd'hui. Là, voilà, c'est terminé. Il est débarrassé de cette promesse de campagne de 2017 et son annonce de campagne 2022 a déjà plutôt été faite là-dessus. C'est une retraite à 65 ans. Donc, il récupère des marqueurs plutôt à droite. Donc, c'est comme ça qu'il a privé d'oxygène aussi Valérie Pécresse sur les questions économiques. Aujourd'hui, elle explique que le programme d'Emmanuel Macron est une pâle copie du sien, mais en fait depuis plusieurs mois voire années, il grignote comme ça le champ économique à droite. D'ailleurs, une des prises politiques de cette campagne pour Emmanuel Macron, c'est Éric Woerth, président de la commission des affaires, de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui s'est opposé en façade, on va dire, au gouvernement pendant tout le quinquennat.
Sur le pouvoir d'achat, c'est peut-être une des seule thématique aujourd'hui où on voit une différence marquée encore entre la droite et la gauche. On a l'impression que la droite veut davantage augmenter les salaires, la gauche le cynique. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu les deux camps ?
Oui, alors c'est un peu plus complexe, mais effectivement, la revalorisation du SMIC n'est pas proposée à droite, je crois. Donc, c'est un marqueur différentiel. Et effectivement, une autre prise que peut avoir le futur gouvernement sera le SMIC, parce que le SMIC, pour le coup, ça profite pleinement aux gens qui ont des bas salaires et qui peuvent voir ainsi leur revenu augmenter. Mais je rappelle que c'est une des dernières choses qui prend en compte l'inflation. Et donc, quand l'inflation augmente, le SMIC augmente automatiquement.
L'augmentation du SMIC permet aussi, derrière, aux organisations syndicales de négocier des augmentations de salaire pour les autres qui sont au-dessus du SMIC. Donc c'est pour ça qu'à droite et les entreprises, les chefs d'entreprise sont souvent contre l'augmentation du SMIC parce qu'ils disent ça va tirer tous nos salaires vers le haut, donc ça va créer encore plus d'inflation derrière.
Et on voit à quel point en ce moment justement les négociations annuelles obligatoires, donc qui décident de l'augmentation des salaires pour les entreprises, se passent de manière difficile et que les augmentations obtenues par les salariés sont en général en dessous de l'inflation. Même avec des augmentations de 2,5, on n'arrive pas au taux d'inflation qu'on enregistre en ce moment, qui sont pour le mois prochain, l'INSEE prévoit plus de 4%.
Emmanuel Macron a utilisé aussi un levier, on va dire, qui est entre la droite et la gauche, c'est la prime d'activité. Il a beaucoup utilisé ça, notamment pour augmenter les bas salaires et au niveau du SMIC au moment de la crise des Gilets jaunes. On se souvient son annonce à la télé en disant qu'il augmente de 100 € le SMIC. En revanche, c'est quelque chose qui ne peut pas faire indéfiniment. Augmenter les salaires par la prime d'activité, c'est compliqué. À un moment donné, c'est les chefs d'entreprise qui doivent s'y mettre. Oui.
Ça existe en matière de pouvoir d'achat, le quoi qu'il en coûte ou pas ?
Bah, on voit oui que c'est possible, puisque c'est ce qu'on voit depuis quelques mois maintenant. On voit bien que au début, ou quand l'inflation a commencé à progresser, au départ c'était parce que c'était les conséquences de la pandémie, la désorganisation des chaînes de production, certains prix des matières premières augmentés, donc pour et notamment ceux du gaz et de l'électricité déjà à l'automne dernier. Donc évidemment, le gouvernement avait identifié ce sujet comme potentiellement inflammable et puis qui posait des vrais problèmes de budget pour une partie des ménages. Donc ils ont commencé par le chèque énergie et puis à mesure que les prix ont continué à augmenter, il y a eu des nouvelles mesures, dont certaines assez fortes, comme le plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4%, comme le gel des prix du gaz. Donc on voit bien que quand il s'est agi de répondre et de protéger, comme ils disent, les Français contre la hausse des prix, le quoi qu'il en coûte est toujours d'actualité, même s'ils s'en défendent en disant il n'y a plus de quoi qu'il en coûte.
Il y a une candidate qui s'est emparée du pouvoir d'achat depuis le début, c'est Marine Le Pen. Elle se dit même candidate du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner ? Est-ce qu'on peut faire un président avec le pouvoir d'achat ?
En tout cas, elle parle à l'extrême droite, à beaucoup de Français sur cette thématique-là. Parce que c'est pas la seule à en avoir parlé. À gauche, que ce soit Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et même Yannick Jadot l'ont mis sur la table très très vite cette thématique-là. Mais elle, c'est vrai que droite à l'extrême droite, elle s'en est emparée. Elle en a fait un élément de clivage avec Éric Zemmour très vite, en expliquant qu'Éric Zemmour, lui, son obsession, c'était l'islam et que elle, non, c'était le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français, soutenir les catégories populaires, parce qu'elle parle à une partie de ces Français-là qui vont voter, parce que beaucoup de catégories populaires ne vont pas voter. Mais oui, et aujourd'hui, ça s'avère payant, et on le voit dans les sondages, elle recrée le trou avec Éric Zemmour dans beaucoup d'intentions de vote. Et c'est sur ces thématiques-là, notamment dans la guerre en Ukraine, enfin les conséquences de la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix de l'essence, qu'elle a une certaine crédibilité en la matière pour ses électeurs-là. Oui.
Pourtant, baisser le prix de l'essence, des taxes notamment, c'est ça que veut Marine Le Pen, notamment passer la taxe énergie de 20 à 5%, ça fait perdre aussi beaucoup d'argent.
Oui, et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le prix de l'essence, mais en fait, l'énergie représente la moitié de l'inflation constatée aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'énergie, et ça commence à s'étendre aux autres produits, aux produits manufacturés, et notamment à l'alimentation. Le chiffre est un peu passé inaperçu, mais mardi dernier, l'INSEE a annoncé que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 2,5%, les fruits et légumes de plus de 4% et le pain et les céréales de 2,7%. Donc on voit bien que plus les mois vont avancer, plus ça ne va pas concerner que l'énergie. Et ça, en ça, la décroissance ou pas, tout le monde mange. Et donc Yannick Jadot a proposé dans son programme notamment une mesure qui est un chèque immédiat de 400 euros pour les 6 millions de familles les plus défavorisées et de 100 euros pour les classes moyennes. Donc on retrouve un peu l'indemnité inflation faite par le gouvernement en décembre, mais qui était de 100 euros, mais avec une somme plus élevée pour les plus défavorisés. Donc on voit que le futur gouvernement aide l'inflation, aide les ménages face à l'inflation. Ça sera bien au-delà du prix de l'essence sur lequel tout le monde se focalise aujourd'hui.
Il y avait eu quand même un blocage des prix. Une fois, c'était Pierre Bérégovoy en 1990. Saddam Hussein envahit le Koweït. Il bloque les prix de l'essence pendant 5 mois. C'est possible, ça ? Aujourd'hui,
c'est possible de le faire. Maintenant, tout est une question d'affichage politique. On le voit, Marine Le Pen, elle joue sur des gros chiffres. La TVA est à 20%, je veux la passer à 5%. Mélenchon parle aussi aujourd'hui du blocage des prix en prenant l'exemple de La Réunion où il y a un blocage des prix de première nécessité là-bas pour avec la spécificité qui est que La Réunion est une île loin de la métropole et que certains produits coûtent cher. La question est comment on fait sur la durée, puisque cette guerre en Ukraine va durer, que les crises risquent aussi de durer, donc le pétrole risque de continuer à être cher et donc on risque d'avoir des prix à la pompe toujours aussi élevés. C'est là où s'affrontent un peu deux catégories de candidats, ceux qui veulent faire les propositions tout de suite, même si au début ça peut marcher en affichage, mais sur le long terme, on l'a dit, si les prix continuent à augmenter, ben même en baissant les taxes, la question de l'essence continuera à être présente, et d'autres comme Yannick Jadot, comme Jean-Luc Mélenchon, qui essayent de proposer quelque chose de plus sur plus long terme, qui est le changement de nos modes de consommation, de déplacement, de travail, mais ça prend plus de temps et c'est difficilement entendable pour des gens qui sont contraints de prendre leur voiture parce que leur employeur leur demande, parce que le travail leur demande de prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler.
Yannick Jadot, est-ce qu'il est entendable dans cette période-là ? C'est-à-dire qu'on le voit parler de l'Ukraine, mais sur le pouvoir d'achat, est-ce que c'est entendable en sachant que beaucoup d'écologistes, pas lui, hein, mais prônent la décroissance, parler de pouvoir d'achat en même temps, est-ce que c'est pas contradictoire ?
Alors qu'il était assez bon dans un débat face à Marine Le Pen chez Cyril Hanouna, il a eu la seule difficulté du débat a été justement sur la question du pouvoir d'achat, où Marine Le Pen lui a dit, mais en fait, pour les gens qui prennent leur voiture tous les jours, vous voulez qu'ils payent d'un côté et leur rendent de l'autre côté. Donc moi, je propose à ce qu'ils ne payent pas tout de suite, et comme ça, l'argent reste dans leur portefeuille. C'est assez simpliste, mais effectivement, c'est difficilement entendable, alors que ce serait plutôt une bonne solution pour permettre à d'autres de payer la transition aux plus riches, payer la transition écologique de ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui pour investir dans des véhicules propres et qui n'utilisent pas d'essence ou de gazole.
Alors sur libellisé@libération.fr, Stéphane nous envoyait un message concernant Jean-Luc Mélenchon et une de ses réformes les plus symboliques s'il arrive au pouvoir.
Bonjour Stéphane, 42 ans, j'habite à Paris. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon voulait taxer à 90% les très hauts revenus. Est-ce que vous croyez que ça va être utile ou sa réforme, ou on est plutôt dans le symbole ?
Elle est intéressante cette question parce que ça mélange les deux en fait avec Jean-Luc Mélenchon. On ne sait pas trop toujours si on est dans l'efficacité ou dans le symbole d'union.
On est beaucoup dans le symbole. Les 90%, c'est au-delà de la taxe, enfin de l'imposition à 75% qui avait été proposée par François Hollande et qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors Jean-Luc Mélenchon dit qu'il s'en sortira puisqu'il va créer 12 tranches d'impôts, donc quelque chose de beaucoup plus progressif pour éviter que cet impôt à 90% sur la dernière tranche soit jugé confiscatoire. Mais en en même temps, c'est se mettre en opposition à Emmanuel Macron, comme disait Anne-Sophie. Son marqueur politique économique, tout de suite, ça a été de libérer le capital pour créer, disait-il, un ruissellement de l'argent des plus riches dans l'économie réelle. Beaucoup d'études, on cherche toujours à savoir si ce ruissellement a vraiment fonctionné. Mais en tout cas, c'était aussi symbolique de la part d'Emmanuel Macron et ça a marqué son quinquennat et notamment a été un catalyseur de la crise des Gilets jaunes au même titre que la hausse du prix de l'essence à l'époque et de l'augmentation de la taxe carbone. Oui, après économiquement, la mesure n'ayant pas été mise en place, c'est compliqué de dire si ça peut fonctionner réellement, mais il y a une question d'égalité qui est dans notre devise le mot le plus fort et qui parle le plus à la population.
Quand Jean-Luc Mélenchon voit son projet économique validé par le MEDEF, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un candidat crédible aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ?
Il est beaucoup plus crédible depuis qu'il y a le quoi qu'il en coûte, depuis qu'il n'y a plus les règles européennes qui l'empêchaient de mettre en place un tel programme. Après, ça arrange bien aussi le MEDEF d'avoir cette opposition-là de gauche, beaucoup plus tranchée par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement actuel qui plaît beaucoup au MEDEF. Et effectivement, il y a plus de crédibilité. Il y a plus d'économistes qui le rejoignent, qui à une époque hésitaient à participer à son programme économique. Ça c'est vrai. Maintenant c'est quelque chose de théorique aussi. Voilà, c'est une relance vraiment par la consommation. Ça fait penser aussi à 81. Est-ce que ça peut fonctionner dans une économie ouverte à l'époque de la mondialisation? On peut aussi se poser la question parce que rendre du pouvoir d'achat aux Français et dire ça va remplir le carnet de commandes français. Non, pas forcément. Ça remplit aussi le carnet de commandes des entreprises européennes, voire mondiales, et pas forcément la création d'emplois sur notre pays. Mais en tout cas, aujourd'hui à gauche, vu les difficultés des socialistes la difficulté des écologistes à être crédibles sur leur transition, c'est vrai que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup travaillé, c'est son troisième programme, qui fait office de sparring partner du MEDEF aujourd'hui. Oui.
Une chose tout de même, Emmanuel Macron a promis la fin de la redevance pour l'audiovisuel public, de tripler sa prime de 1000 euros qu'il avait mis en place au moment des Gilets jaunes. Est-ce que véritablement ces mesures peuvent apporter du pouvoir d'achat ?
Bah oui, ça peut en apporter, évidemment, on voit bien. Mais après, la question, c'est à qui ça en apporte. Et c'est là un peu quand même la différence entre la droite et la gauche. Et quand on supprime la redevance, ça concerne tout le monde, y compris les ménages les plus aisés. Et on a un peu un bis repetita de la campagne de 2017, où il avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, qu'il a faite d'ailleurs, mais qui concerne tout le monde, y compris les ménages les plus aisés. C'est aussi en ça que Jean-Luc Mélenchon a un discours qui porte aussi, c'est qu'il adresse la question des inégalités. Et la question des inégalités, elle est de plus en plus forte. Et toutes les études, et là, tous les économistes confondus, quelles que soient leurs obédiences, constatent que les inégalités progressent en France de manière marquée.
Tu l'as dit, ce quinquennat a été marqué par les questions de pouvoir d'achat. On a eu une pandémie. Il y a une guerre qui est aux portes de l'Union européenne. Est-ce que tout de même le risque de crise sociale, il est toujours présent en France ?
Évidemment. Alors la question de la pandémie, elle est intéressante parce que le pouvoir d'achat n'a pas reculé pendant la pandémie, mais parce qu'il y a eu une réponse publique massive qui a permis justement de préserver les salaires et donc le pouvoir d'achat. Donc ça, on a évité une situation qui aurait pu être dramatique avec un creusement des inégalités pendant cette période-là. Ensuite, évidemment que ça ne disparaît pas. On parlait tout à l'heure des négociations pour les salaires. On voit bien que les entreprises ne suivent pas l'inflation, donc ça crée forcément des crispations. Il y a une grève aujourd'hui même sur ces questions de pouvoir d'achat. Après, ce que disent tous les sociologues et autres politologues, c'est que de fait, la crise sociale, bien malin, celui qui peut la prévenir. Mais on voit bien de toute façon qu'il y a des points de crispation qui se multiplient, et s'il y a une réponse aussi forte aux questions de pouvoir d'achat avec les différentes primes, indemnités et tout ça, c'est aussi pour éviter ces points de crispation-là. Le gouvernement actuel n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant la question des Gilets jaunes.
Cette présidentielle, la crise sociale, elle ne la réglera pas ?
Non, une élection ne règle pas une crise sociale. Les gens votent ou ne vont pas voter, attendent de voir comment se comporte le futur gouvernement. Et après, on ne sait jamais comment ça se passe. La dernière fois sur les Gilets jaunes, c'est au moment du budget, il y a une augmentation de la taxe carbone qui arrive en même temps qu'une augmentation des prix à la pompe qui n'a rien à voir avec l'augmentation de la taxe carbone, puisque cette augmentation allait être mise en œuvre quelques mois plus tard. Mais c'est la conjonction d'une annonce de politique économique et d'un fait, j'allais dire, dans le porte-monnaie qui fait qu'une dynamique s'enclenche. Donc on ne sait pas. Souvent ça arrive en France sur la voiture. Dans d'autres pays, ça a été avec le prix des tickets de métro ou des tickets de bus. Plutôt dans l'histoire, c'est le prix du pain. Donc on ne sait pas comment s'enclenche une crise sociale.
C'est la fin de ce 7e épisode de Libellisé. Merci Anne-Sophie, merci Lilian. Alors avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain.